téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Il est très cher. C'est très important. Ouais. Hello.
9h40 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Aujourd'hui, la radio et la télévision publique israélienne dévoilent leur nouveau visage. Nouvelle chaîne, nouveau statut, nouvelle gouvernance. Et ce, après un coup de force sans précédent. La semaine dernière, le gouvernement a interrompu brutalement les antennes en Israël. On assiste médusé à une reprise en main politique des médias publics. Retour sur le contexte idéologique et l'imbroglio parlementaire qui se joue depuis des mois avec Charles Anderlin. Il fut le correspondant de France 2 à Jérusalem. Il vit toujours sur place, on sera avec lui dans un instant au téléphone. Mais ensuite, on aura aussi quelques notes de musique et une comédie bien ficelée. Romain Nigita, notre spécialiste série, vous recommande de quoi vous changer les idées.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Bonjour Charles Anderlin.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ce matin chez vous à Jérusalem. Alors, c'est un imbroglio politique formidablement complexe, mais vous allez voir, mardi soir, c'était très simple, très fort et très émouvant ce qui s'est passé à la télévision publique israélienne. On va écouter cette dernière minute où la présentatrice du 20h, du moins son équivalent, explique aux téléspectateurs que la chaîne va cesser d'émettre.
הודעה של הכנר של דוד הן בכנסת שלמעשה הערב תשודר מהדורת מבט האחרונה זה בשביל רצון מסיים תאגיד לעמוד ביום פתיחת השידורים יכול להיות שזה גם במהדורה האחרונה הזו מבחינה זו הסיום של התוכנית לא רלוונטי אני כן רוצה להודות לכל האנשים שעבדו פה במשך השנים
שרל אנדרלין Pour que l'on comprenne qui a pris la décision de faire cesser d'émettre la télévision et la radio publique israélienne.
Oui, bah écoutez, c'est aussi, je dois le dire, un moment assez triste pour moi aussi, puisque j'avais commencé une carrière de journaliste à la radio israélienne en 1971, et c'était une radio assez formidable sur les grands principes de la BBC. C'était censé être l'image de marque de la démocratie israélienne. Alors, pour en revenir, il faut quand même un petit peu d'histoire. La radio israélienne a en fait commencé à l'époque du mandat britannique, ça s'appelait le Kol Yerushalayim, la radio de Jérusalem, en 1936. Après l'indépendance, c'est devenu la grande radio nationale, Kol Israël. La télé a vu le jour, elle, pour la première fois en 1968. Et tout cela a été placé sous le chapeau d'un office de radio et de télévision israélien, calqué sur le modèle de la défunte ORTF. Oui. Au fil des ans, c'est devenu un organisme gigantesque, un gouffre financier ingérable. Alors, en 2014, le gouvernement israélien de M. Netanyahou a décidé, non pas de le réformer, mais de le démanteler pour créer une nouvelle société de diffusion publique. Des budgets ont été trouvés, des journalistes embauchés, des techniciens, et tout cela a commencé à se mettre en place. Mais il y a quelques mois, M. Netanyahou a découvert avec horreur et stupéfaction qu'à la tête de la rédaction des nouveaux JT, des nouveaux journaux de cette société de diffusion, il y avait des journalistes très indépendants. Et ça, ça n'a pas plu à M. Netanyahou et à un certain nombre de personnalités du Likoud qui trouvent quand même... c'est nous, au gouvernement, qui donnons l'argent. Il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas le contrôle. La ministre de la Culture, qui n'est pas tout à fait en faveur de médias très indépendants, l'a déclaré, et même un député, Likoud, responsable de la coalition parlementaire, n'a pas hésité à annoncer qu'en Israël, les journalistes avaient trop d'indépendance. Résultat, il y a eu un véritable conflit entre le ministre de l'économie, qui lui n'appartient pas au Likoud et qui ne veut pas sortir des centaines de millions d'euros pour démanteler ce qui a été mis en place, payer les dédommagements aux centaines d'employés, aux centaines de journalistes de la radio et de la télé publique qui arrêtent donc de diffuser. Un grand combat politique, un bras de fer en Israël. Pour l'instant, on en est là. Les choses ne sont pas encore décidées. Tout ce que l'on sait, c'est que la nouvelle société a été divisée en deux. Une rédaction qui sera plus ou moins sous le contrôle du gouvernement, et les programmes qui seront peut-être plus indépendants.
Alors voilà. Ça signifie que télé et radio vont produire des programmes de toutes sortes, mais que tout ce qui relève de l'information et du traitement de l'information sera sous coupe gouvernementale ?
Écoutez, on n'a pas encore les détails, mais effectivement, ça en prend la direction. Cela fait partie de la grande politique de M. Netanyahou, qui, avec plus ou moins de discrétion, tente de contrôler les médias en Israël. Déjà, il dispose d'un instrument formidable de pouvoir. C'est un quotidien, un journal, qui est le plus lu et le plus diffusé en Israël, entièrement financé par un milliardaire américain de droite, ami personnel de M. Netanyahou. Et on appelle ça d'ailleurs en hébreu, en acronyme, le Bibiton. Bibi, c'est le surnom de Netanyahou, et Iton, cela veut dire en hébreu journal. Donc le Bibiton, c'est le canard de M. Netanyahou. Les autres journaux, on peut dire qu'il y a le quotidien indépendant de gauche Haaretz qui a une diffusion de plus en plus limitée. L'autre grand quotidien de centre-droite étant souvent à couteau tiré également avec la présidence du conseil de M. Netanyahou. Quant aux télés, il y a les deux grandes chaînes privées. La chaîne 2 qui est la plus populaire avec beaucoup de téléréalités. Et puis la chaîne 10 qui est relativement critique et qui diffuse des reportages d'investigation que M. Netanyahou déteste absolument. C'est cette chaîne qui a sorti l'histoire des cadeaux que M. Netanyahou reçoit de certains de ses amis milliardaires pour des centaines de milliers de shekels.
Donc cela signifie, Charles Anderlin, que en fait Israël traverse une période extrêmement grave et cruciale en matière et de liberté de la presse et de pluralisme des médias.
Écoutez, oui, maintenant, cela dure déjà depuis quelques années.
Mais ça se durcit, manifestement.
Oui, absolument, et ça risque de se durcir encore plus. Vous savez, en Israël, il n'y a pas de journalistes en prison, il n'y a que des journalistes au chômage. Ça, c'est un problème. Maintenant, en parallèle, vous avez quand même une offensive au Parlement avec des nouvelles lois contre les ONG de gauche, une loi constitutionnelle censée redéfinir l'État d'Israël comme l'État-nation du peuple juif, où l'arabe ne serait plus une langue officielle de l'État d'Israël comme c'est le cas jusqu'à présent. Cela fait partie d'un ensemble de contrôles des médias, mais aussi de ce qu'on peut appeler l'ambiance, la conscience nationale israélienne.
C'est ça, c'est une reprise en main idéologique globale, en fait, qui se joue en ce moment
absolument.
Dans le contexte israélien. Alors, ce qui est assez curieux, vu de chez nous en France, c'est que Benjamin Netanyahou a fustigé publiquement la fermeture soudaine de cette chaîne de télévision et de cette antenne de radio, en disant que ça n'était pas de son fait, que c'était extrêmement brutal et que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait s'y prendre.
D'abord, c'était prévu par les règlements, par les décrets qui ont accompagné la création de la nouvelle société de diffusion. Et comme je vous l'ai dit, Netanyahou a commencé à rétro-pédaler en découvrant que cette société de diffusion, eh bien, elle avait tous les aspects d'une rédaction très indépendante, ce qu'il craint. Parce que
donc il est entièrement à la manœuvre.
Oui, absolument.
Oui, il est entièrement à la manœuvre. Quelles ont été les réactions, vous qui êtes à Jérusalem, parce que cette séquence de télévision, elle est extrêmement forte. Hein. C'est-à-dire que tous les journalistes sont autour de la présentatrice sur le plateau, ils ont la main sur le cœur, ils pleurent. Quelles ont été les réactions parmi les Israéliens?
Écoutez, le grand public, on ne voit pas vraiment. Il faut dire aussi que la première chaîne publique qui vient de fermer avait une audience très faible. Les gens regardaient plutôt les grandes chaînes privées avec la télé-réalité et des chaînes beaucoup plus modernes. Maintenant, ce qui effectivement va susciter, à mon avis, de véritables réactions des auditeurs, c'est l'arrêt des radios, notamment la radio musicale, la chaîne classique, et puis la grande chaîne généraliste de radio qui avait quand même une audience pas mal et qui était assez respectée.
C'est ça, donc c'est un peu comme si du jour au lendemain, le gouvernement coupait France Inter et France Musique.
Et France Info, et absolument, et France Bleu.
Et France Bleu, exactement, et France Bleu. Comment ça va se passer dans les jours qui suivent, puisque Benjamin Netanyahou a carrément menacé de dissoudre le Parlement autour de cette affaire, si un accord n'était pas trouvé, hein, au milieu de ce différend qu'il a avec son ministre de l'économie. Comment ça va se passer sur le plan politique ?
Écoutez, a priori, il n'y aura pas de dissolution du Parlement dans un avenir, en tout cas prévisible, si ce n'est pour d'autres raisons, par exemple religieuses, les partis ultra-orthodoxes ruent un peu dans les brancards au sein de la coalition gouvernementale pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'audiovisuel. Donc tout ça, ce sont des menaces en l'air de la part de M. Netanyahou. La question, c'est est-ce qu'il parviendra à empêcher la naissance de cette société de diffusion qui, entre parenthèses, accueille plusieurs centaines de journalistes et de techniciens et de réalisateurs de la chaîne publique qui vient de fermer. Donc des gens vont quand même retrouver du travail. Que va-t-il faire ? A priori, pour l'instant, il est plutôt au pied du mur. On ne sait pas s'il parviendra encore une fois à prendre le contrôle. Je pense qu'il arrivera à contrôler d'une manière ou d'une autre, comme nous venons de le dire, la rédaction de la nouvelle société.
Merci beaucoup, Charles Anderlin. Et puisque les choses vont se préciser dans les jours à venir, eh ben, ce sera un plaisir de vous avoir depuis Jérusalem, si vous acceptez nos visites intempestives depuis Paris.
Avec plaisir, venez ici, il fait chaud.
À très très bientôt, au revoir.
Au revoir.
La nouvelle radio publique israélienne a donc débuté ce matin. La télé publique commencera à émettre à 16h et évidemment, on se fera un plaisir et un grand intérêt de la regarder, à faire, à suivre dans l'instant M. Un petit mot avant de retrouver Romain Nigita pour parler série télé. Un petit mot parce que vendredi, vous le savez, tous les vendredis, on joue dans l'instant M à reconnaître une Madeleine et on avait un gagnant et j'ai été prise par le temps et je n'ai pas pu annoncer son nom. Donc notre gagnant de la semaine s'appelle Christian et nous le félicitons. En quelques secondes, il a reconnu le professeur Choron, invité de droit de réponse. C'était en janvier 1982. Bravo, Christian. Voilà, ça s'appelle terminer au milieu de l'émission de lundi, son émission de vendredi. Voilà, on commence la semaine avec un conseil télé. C'est un coup de cœur de Romain Nigita.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Romain Nigita, salut Romain.
Bonjour Sonia.
Qui est notre maître étoilé, vous le savez, en série télé, vous propose une chronique en musique pour la diffusion de Crazy Ex-Girlfriend. Et Romain, Crazy Ex-Girlfriend, c'est une vraie comédie musicale, une comédie musicale au sens hollywoodien du terme.
Exactement, puisque les personnages expriment leurs sentiments en musique, avec 4 nouvelles chansons originales par épisode. Eh bien, la série relève le défi haut la main, avec tous les styles musical, pop, ballade et même parfois hard rock.
Voilà, ça c'était donc pas du hard rock, mais plutôt pour le musical. Romain, Crazy Ex-Girlfriend, ce n'est pas qu'une comédie musicale, c'est aussi une comédie romantique, comme
oui,
on dit.
Puisque l'héroïne Rebecca a plaqué son poste d'avocate à New York pour s'installer dans une petite ville de Californie. Tout ça dans le but d'y retrouver son ex, rencontré en colonie de vacances quand elle était ado. L'actrice principale Rachel Bloom a créé cette série avec sa comparse Aline Broche McKenna. Elles ont fait un terrain de jeu pour leur délire. Elles dynamitent les clichés des comédies romantiques, les paroles des chansons sont extrêmement drôle et je vous laisse apprécier The Sexy French Depression en français
non.
dans le texte.
Je peux résoudre mes problèmes en façon des fixations sur tous mes cafouillages et toutes les façons de foutre en l'air ma vie au-delà de toute réparation. Si j'y réfléchis assez sérieusement, je finirai par avoir la réponse, mais j'ai oublié quelle était la question. I'm in a sexy French Depression.
C'est vrai que si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc voilà, extrait de Crazy Ex-Girlfriend, tous les dimanches soirs sur Teva, qui a fait hurler de rire Romain. Quels sont les ancêtres, en fait, en matière de séries musicales ?
Alors Fame, évidemment,
ah,
au
oui,
milieu
évidemment,
des
ouais.
années 80, adapté du film d'Alan Parker. On peut aussi se rappeler de Deux flics à Miami. Parce que même si les personnages ne chantaient pas, les chansons de la bande originale commentaient vraiment les images. Et ça, c'était la première fois. Mm-hmm. Mais surtout, la date clé, c'est 1990 avec Cop Rock, une série série policière aussi sombre que pourra l'être The Shield 15 ans plus tard, mais dans laquelle flics et voyous poussent la chansonnette 5 fois par épisode. Voilà par exemple le briefing matinal au commissariat. C'est l'une des séries les plus marquantes du grand Steven Bochco, le co-créateur de New York Police Blues et La Loi de Los Angeles. Mais l'expérience ne dure que 11 épisodes. Il faut dire que la production de 5 nouvelles chansons par épisode rend la tâche très difficile. C'est pourquoi l'une des rares séries à avoir retenté l'expérience n'a misé que sur des reprises. Mmh. Il s'agissait de Glee, qui a duré tout de même 6 saisons. C'était l'histoire de lycéens qui montent une chorale. Et quant au rap, au hip-hop et au R&B, ils ont aussi leur série, avec des réussites variables tout de même. Récemment, Empire, dans le milieu des maisons, de disques, tout à fait, qu'adore Redouane de l'équipe. Et puis aussi The Get Down, sur l'émergence du rap dans les années 80, un peu moins réussi, parce que là aussi, de gros soucis de production pour les chansons.
Alors parfois, des séries d'ordinaire très sages, de facture très classique, se mettent à chanter le temps d'un épisode spécial. Ça nous vient pas forcément à l'esprit quand on parle série musicale, et pourtant, c'est entré dans la légende des séries.
Et oui, beaucoup s'y sont essayés, que ça soit la série Oz qui se passe en prison, ou la série médicale Grey's Anatomy, les comédies Scrubs, Ally McBeal, How I Met Your Mother, même Seth à la maison est sauvé par le gong, c'est vous dire. Mais parmi les plus marquantes, il y a Buffy contre les vampires avec l'épisode Once More with Feelings en 2001, et surtout la cultissime Xena la guerrière, qui nous a offert pas un mais deux épisodes musicaux en 98 et en 2000, et on va pouvoir écouter Lucy Loles alias Xena qui reprend un tube de Rhythmix.
Carrément. Crazy Ex-Girlfriend, c'est en ce moment sur Teva et c'était le conseil de Romain Nigitas. C'est la fin de l'émission. Merci à toute la bande de l'Instant M, Violaine Ballet, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella et Mathias Alayon, notre technicien ce matin. Demain matin, mon invité, ce sera Michel Denisot, qui fait son éternel retour à Cannes et qui fait aussi son éternel retour sur Canal+. L'histoire se répète et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Voilà, c'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebelli.
Bonjour Sonia Deville.
Ça va?
Bah oui, ça va. Est-ce que vous êtes capable de me citer les premiers présidents de la République, dans l'ordre?
Non. Bon, vous testez ma mémoire?
Oui, exactement. Je teste votre mémoire. Non,
pour c'est plus facile les présidents de la République que le nom d'une personne qui arrive vers moi, les bras grands ouverts, le sourire jusqu'aux oreilles. Et là, en général, j'ai un blanc absolument effrayant. Non, mais à partir de quel âge il faut s'inquiéter?
Bienvenue au club, vous n'êtes pas physionomiste.
Mais évidemment. C'est pas ça, c'est que j'ai des trous de mémoire. Bon, à partir de quel âge il faut s'inquiéter? C'est une vraie question,
non,
ça me taraude.
À tous les âges. Alors, comment améliorer sa mémoire? C'est le thème ce matin. N'hésitez pas à poser vos questions, à témoigner que vous ayez une mémoire d'éléphant ou bien que vous soyez totalement comme vous. Sonia De Villers.
Une passoire.
Vous pouvez appeler au 01 45 24 7000.
Et surtout, est-ce qu'on peut appeler à 20, 30, 40, 50?
Tout
merci, Ali. Je peux vous dire que le standard va exploser.